9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Astrid Cyranocion, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous sortez un nouvel album, duo solo, que vous interpréterez le 10 décembre à la Philharmonie de Paris. Duo solo, et pourtant il s'agit d'un album où l'on n'entend que vous.
Oui, exactement. Violoncelle et voix.
Voilà. Et bien, on va commencer par en écouter tout de suite un morceau. On n'entend que le violoncelle. C'est la suite pour violoncelle seul, numéro 1 de Bach. Oui. Évidemment, c'est un passage obligé hein, pour tout violoncelliste.
Exactement, passage obligatoire dans le répertoire de tous les violoncellistes, je pense.
Ouais. Nos auditeurs vont le reconnaître tout de suite. Il y a deux catégories de violoncellistes face à ce morceau. Il y a ceux qui le jouent en 2 minutes, comme Rostropovitch, oui. Et puis il y a ceux qui le jouent en 2 minutes 30, comme Yo-Yo Ma, Pablo Casals ou vous. Alors comment vous avez choisi de vous ranger dans telle ou telle catégorie ?
Ouais, je n'ai pas forcément cherché à me ranger dans une catégorie, ça ne me ressemble pas trop en général, mais disons que ce qui est assez difficile pour ce genre d'œuvre, c'est qu'à un moment donné, il faut l'enregistrer, donc il faut garder une version, mais je pense que ça fluctue, évidemment, l'interprétation, 2 minutes, 2 minutes 30, peut-être un peu plus, un peu moins, voilà, ça dépend aussi du moment, ça dépend de l'inspiration. C'est une œuvre assez extraordinaire qui en fait peut vraiment évoluer comme c'est une improvisation écrite selon finalement l'état d'esprit dans lequel on est ou tout un tas de choses. Évidemment, l'interprétation peut changer.
Avec un morceau comme celui-ci et puis toutes les autres suites pour violoncelle seule qu'a écrite Jean-Sébastien Bach, le violoncelle qui était un instrument d'accompagnement devient tout à coup l'instrument star.
Exactement, oui, c'est vrai que c'est pour ça que c'est si important dans le répertoire des violoncellistes, c'est que c'est vraiment l'œuvre qui met en avant toutes les résonances du violoncelle et qui donne la possibilité au violoncelle de pouvoir s'exprimer à travers des danses, à travers voilà, des improvisations écrites comme le prélude que nous venons d'entendre. Voilà, donc c'est vraiment un passage obligatoire et puis en général une grande motivation pour les violoncellistes ou de commencer le violoncelle ou alors de continuer pour réussir à jouer cette œuvre.
C'est si difficile que ça ?
Mais tout a sa difficulté, évidemment. Techniquement, ce n'est pas une des œuvres les plus difficiles, comme la sonate de Kodály, par exemple, qui est aussi sur l'album. Mais évidemment, il y a toute une partie spirituelle, instrumentale, et puis aussi toutes les interprétations qu'on connaît. C'est une œuvre très connue, donc forcément, il y a des difficultés différentes que celles qui sont purement techniques.
Astrid Cyranocion, vous êtes arménienne, comme votre nom l'indique, et figure aussi sur cet album des chansons arméniennes que vous interprétez au violoncelle et que vous chantez. On va en écouter une en entier, d'ailleurs, puisqu'elle ne dure que 44 secondes. Elle s'intitule « Noubar ».
Նուբարի բոյը չինար է, աչքերը նուշ ու խումար է, երեկ հորվար ուսնի նման, հոնկերը երու դամար է. Երեկ հորվար ուսնի նման, հոնկերը
On dirait de la musique baroque, ça sort d'où ? De quelle époque ?
C'est de la musique populaire, mais c'est surtout... J'ai entremêlé dans cet album la suite de Jean-Sébastien Bach et les mélodies populaires, un petit peu aussi pour montrer qu'il y a quand même un rapport, en tout cas pour moi, évident entre la musique populaire, la musique baroque et toutes les musiques. Voilà, on veut souvent mettre dans des cases la musique classique, la musique populaire, la musique... Bon, bref. Et je trouve que c'est une erreur, puisque ça cloisonne un peu trop. Et il y a des rapports évidents, oui, entre l'inspiration, la suite de violoncelle de Jean-Sébastien Bach. C'est une succession de danses de cours, évidemment, mais la danse de cours où toutes les danses sont forcément inspirées par les danses, à mon avis, en tout cas populaires. Donc c'était aussi la musique populaire, la musique arménienne se prête volontiers à ce jeu-là avec la musique baroque de Jean-Sébastien Bach.
Vous chantez en même temps que vous jouez du violoncelle, oui, bien entendu.
Oui, oui, c'est un des avantages du violoncelle, c'est-à-dire qu'on a quand même...
Oui, avec le violon, ce ne serait pas possible.
Bon, le violon, on serait peut-être un peu gêné par le violon qui est sous le cou. Alors, le violoncelle, on a complètement la possibilité, en tout cas, de pouvoir chanter en même temps qu'on joue. Oui.
Où en est l'Arménie aujourd'hui? J'imagine que vous vous tenez au courant, mais avec la guerre en Ukraine, on ne voit pas ce qui se passe en Arménie. Ça a dû vous faire drôle, d'ailleurs, quand on a dit la guerre en Ukraine, c'est le retour de la guerre en Europe.
Oui.
La guerre, malheureusement, existait déjà en Arménie contre l'Azerbaïdjan. Et j'oublie pas la guerre en Ex-Yougoslavie. Ou le moment où l'OTAN a bombardé la Serbie au moment du Kosovo. La guerre était en Europe déjà depuis longtemps.
Oui, alors c'est vrai que la situation d'Arménie n'est pas du tout réglée. On a l'impression que c'est complètement au second plan. Elle est extrêmement liée à l'Europe puisque l'Azerbaïdjan étant un des fournisseurs maintenant de pétrole pour l'Union européenne, c'est une guerre qui est excessivement présente à mon sens dans tout ce qui est européen. La situation, pour répondre à votre question, elle n'est pas terrible. Je veux dire qu'il y a quand même encore un pays qui est attaqué par un autre. Ce n'est pas une histoire de conflit, c'est vraiment une attaque de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie. Je pense que cela prendra fin peut-être comme beaucoup de guerres difficiles face à... Je veux dire, Aliyev est un dictateur. Il a vraiment la volonté d'envahir toute l'Arménie. Donc si personne ne l'arrête, si tout le monde trouve que c'est un nouveau partenaire fiable de l'Europe, évidemment que la guerre aura du mal à se terminer. Et moi, j'ai bon espoir qu'à un moment donné, il puisse y avoir un réveil et puis qu'on se rende compte que c'est une guerre qui est aussi proche de l'Europe que l'Ukraine et ce qui se passe en Ukraine qui est affreux. Mais voilà, donc la situation est un petit peu passée sous silence. C'est un peu au second plan, mais comme assez souvent, hein, le génocide arménien est passé sous silence pendant la Première Guerre mondiale, alors que c'était une guerre et un génocide qui était excessivement soutenu par les Allemands à l'époque, avec leur alliance avec l'Empire ottoman. Donc voilà, donc je suis toujours évidemment assez triste. Vous avez dit tout à l'heure que je suis arménienne, je suis française d'origine arménienne, ce qui fait que évidemment mon côté français et européen est un petit peu heurté, oui, par le fait que ce soit une guerre, et comme beaucoup d'autres aussi, qui soient complètement passés sous silence par rapport à d'autres.
Revenons à la musique et à Zoltán Kodály. Alors lui, c'est un Hongrois qui a écrit également des sonates pour violoncelle seul. On va en écouter tout de suite un extrait. C'est très difficile à jouer ce qu'on va écouter.
C'est très difficile,
là, hein. et là, on voit bien qu'il devait y avoir quelque chose d'encourageant à l'époque. On est en 1915, puisqu'on incite à jouer du violoncelle d'une manière différente.
Hein. Oui, on découvre aussi le violoncelle sous sa forme un petit peu orchestrale, qui était un petit peu réservée au piano. Il n'y a aucun problème à pouvoir imaginer l'orchestre à travers le piano, mais le violoncelle, c'est aussi un instrument qui peut-être permet, à travers la tessiture à la fois grave et aiguë, de pouvoir vraiment ouvrir une palette sonore et de couleurs bien au-delà de ce qu'on peut attendre peut-être du violoncelle.
Extrait. C'est ce moment-là que je préfère. C'est pour ça que je l'ai fait commencer là.
J'ai l'impression que ça, violoncelle, en plus, c'est écrit de manière... Il n'y a que lui qui a écrit ça, donc ça fait sortir comme une voix un peu... un peu cassée. Ouais. C'est des registres qui ne sonnent pas du tout au violoncelle, en fait, avec des accompagnements.
Que le violoncelle, c'est l'instrument qui est le plus proche de la voix humaine.
Oui.
Ça semble un cliché, mais là, on
non,
l'entend.
Mais c'est vrai, oui, vraiment. Le violoncelle, je pense aussi la tessiture qui est assez proche de la voix parlée se prête vraiment. Alors moi aussi, à travers le fait de chanter avec le violoncelle, je trouve que ça se prête bien. La tessiture, le timbre du violoncelle marche avec la voix humaine. C'est vrai que c'est un cliché, mais à la fois, pour le coup, c'est un cliché qui se justifie amplement à travers même tous les répertoires du violoncelle.
L'album s'intitule Duo Solo. Vous l'interpréterez le 10 décembre à la Philharmonie de Paris. Malheureusement, je le dis tout de suite, c'est déjà complet. Merci Astrid Cyrano-Sion d'être passée par cette émission.